marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Vous ne saviez pas que vous alliez découvrir la filière du trafic mondial des œuvres d'art.
La restitution du patrimoine africain.
Plus de 90% du patrimoine africain est en dehors de l'Afrique. C'est parce que tout simplement, il y a des itinéraires du patrimoine qui sont liés à l'histoire des pays, mais généralement à l'histoire de la colonisation. Ce qui fait aujourd'hui que pratiquement les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art en Afrique sont dispersés aux quatre coins du monde, dans les plus grands musées, British Museum, aujourd'hui Quai Branly, et dans plusieurs autres musées en France et aux États-Unis. Bon. Ce qui veut dire tout simplement qu'une bonne partie de la mémoire, une bonne partie du patrimoine qui fonde un peu l'identité de ces sociétés, eh bien tout ce patrimoine qui est un socle de développement économique et social, mais surtout un socle de développement humain, aujourd'hui est en dehors de l'Afrique.
Commençons par citer un chef-d'œuvre du patrimoine européen. Quand Françoise Nyssen envisage de promener la Joconde dans ce qu'elle nomme les déserts culturels français, il est facile d'expliquer à la ministre débutante que de telles sorties mettraient en danger la vieille dame et seraient évidemment trop coûteuses. Mais quand le président de la République lui-même annonce le prêt de la tapisserie de Bayeux aux Anglais, les professionnels de la profession préféreraient regarder ailleurs, mais ils sont bien obligés d'entendre le vœu d'Emmanuel Macron. Selon lui, nos musées, à qui il était déjà demandé d'enrichir les statistiques du tourisme, doivent participer davantage à la diplomatie d'influence de la France. Application maintenant en Afrique. En novembre, pendant sa prestation d'anthologie devant les étudiants de Ouagadougou, Emmanuel Macron a déclaré « Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain à l'Afrique. » Et moi, chez les conservateurs de musées, depuis 30 ans qu'un mouvement revendicatif s'est développé en la matière, il campait sur des positions défensives. Nos établissements, disait-il, ont vocation universelle. La législation nationale rend nos collections accessibles. La législation internationale sur les trafics illicites, si excellente soit-elle, est récente, ne vaut pas pour les temps reculés. D'ailleurs, professait-il, si on considère la durée, la capture des objets n'est-elle pas constitutive des collections depuis la plus haute antiquité ? Les professionnels de la profession avaient déjà eu beaucoup de mal à se mettre en branle quand il s'était agi de rendre les biens juifs spoliés. Un mouvement d'une autre importance s'annonce-t-il. En mars, le président a nommé une mission, présidée par Bénédicte Savoie, professeur au Collège de France, et Felwine Sarr, économiste sénégalais. Les juristes qui en feront partie devront faire preuve d'imagination pour fonder et aussi borner les termes d'un échange qui ne serait plus inégal, mais apaisé.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Anne Lafont, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai peinte comme une femme de mobilité, mais c'est vrai, vous avez eu une bourse de la mobilité d'une fondation américaine. Et alors, vous avez travaillé, enseigné dans divers lieux.
Oui, en effet. Oui, j'ai enseigné aux États-Unis, au Canada, en France aussi, bien
et
sûr.
Et maintenant, vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et un des axes de votre enseignement en séminaire, c'est « La mondialité doit saisir l'histoire de l'art ».
Absolument. C'est-à-dire que j'essaye de développer une recherche en la partageant avec des étudiants et des collègues qui portent attention finalement au contexte de rencontres et comment les objets finalement matérialisent cette rencontre dans la composition, dans les processus artistiques et dans les matériaux aussi.
Vous n'avez pas parlé de votre séjour à Rome. Alors quand vous étiez à l'école française de Rome, vous vous êtes aperçu que à Rome, les objets venaient d'un peu partout, et que de Rome, les objets ont été exfiltrés à l'occasion de tel ou tel pillage, le sac de Rome par Charles Quint en 1527.
Absolument. Alors, je fais juste une petite rectification. J'étais pas à l'école française de Rome.
Ah bon, pardon.
Parce que c'est pour les historiens. J'étais à la Villa Médicis, donc à l'Académie française.
Ah,
France
mieux
à Rome.
Encore.
Je sais pas si c'est mieux, mais c'est juste une filière plus historienne de l'art. Oui, en effet, quand on vit, bon, d'ailleurs, quand on vit à Paris aussi, mais peut-être que le déplacement aide toujours à comprendre un peu l'étrangeté de la mobilité des patrimoines et à quel point les patrimoines se constituent dans le cadre souvent de guerres en fin de compte et qui sont des trophées finalement pour signifier de manière ostensible sur la place publique, dans l'espace urbain, de quelle manière on a conquis un territoire, comment on a réussi à imposer finalement une présence qui est vécue comme étrangère à une autre population. Et effectivement, que ça soit d'ailleurs dans plusieurs coins de l'Italie, j'ai été confrontée à ce type d'ostentation, si vous voulez, de patrimoine qui venait d'ailleurs. Et ce que j'ai pu remarquer d'ailleurs dans de nombreux voyages aussi, quand j'allais aux États-Unis et je voyais ces collections impressionnistes aussi, c'est à quel point, quand on est en France et qu'on visite le musée du Louvre pour une Française, pour quelqu'un qui a vécu à Paris ou dans sa banlieue toute sa vie, on a naturalisé, si vous voulez, le fait que le Louvre, ça paraît aller de soi. Mais quand on commence à se déplacer, hein, on devient plus, en quelque sorte, plus sensible, finalement, à ces trophées que sont aussi les œuvres
d'art. Alors, le Louvre est fait en partie de captures réalisées en Italie pendant les guerres révolutionnaires et impériales. Mais les conservateurs du Louvre vous diront, mais les gens de Liège, qui étaient républicains, ils étaient très fiers que leurs objets aillent au Louvre, musée universel. Alors, on peut prendre un autre exemple contemporain. Nous sommes au début du 19e siècle aussi, en Grèce. Alors, la Grèce, en 1801, n'est pas indépendante.
Non, c'est sous Empire ottoman. Ouais. En fin de compte.
L'ambassadeur Lord Elgin de l'Empire britannique auprès de la Sublime Porte obtient un firmant. J'emploie des mots compliqués à dessein parce que la traduction de ce décret est pas très claire, selon lequel le sultan lui permet de fouiller, de relever, de copier. Alors il va un peu plus loin avec une commission qu'il donne, Lord Elgin, et il emporte les frises du Parthénon. Et puis il est couvert de dettes un peu plus tard. Ça coûte cher les ambassades, surtout quand elles sont menées comme ça. Et il vend au British Museum les frises du Parthénon.
Être français n'est pas une excuse.
Dis donc, vous n'avez rien fait, non?
Et qui nous a volé la Vénus des Milo? Et les frises du Parthénon?
Ah non, les frises du Parthénon, ce sont les Anglais.
Et je déteste aussi les Anglais.
Alors, Madame Thatcher, je ne veux pas vous rendre, à vous les Grecs, à vous Mélina Mercouri, un petit morceau de Parthénon qui est au British Museum. Les Anglais disent, peut-être un peu hypocritement, là, c'est à l'abri de la pollution. Vous continuez votre combat quand même?
Comme s'il n'y avait pas de pollution en Angleterre. Mais enfin, la question n'est pas là. Pour moi, la frise du Parthénon appartient dans un monument unique et que c'est l'identité grecque. On a, d'une façon très barbare, volé cette frise du Parthénon. On doit nous le rendre. On a fait un galop. Le peuple anglais veut nous le rendre parce que ça nous appartient et beaucoup de sang a coulé à cause de l'acropole. Je ne veux pas vider les musées du monde entier. On demande seulement la prise d'un monument unique qui représente la démocratie et l'âme du peuple grec.
Mélina Mercouri, dans les années 80, était ministre de la Culture du gouvernement grec. Voler. Chaque cas est un embrouillamini juridique. Et s'il y avait une procédure qui pouvait accéder à la justice, on pourrait argumenter, Anne Lafont, les frises du Panthéon, elles ont été acquises peut-être légalement.
Absolument. C'est vrai que c'est des contextes très particuliers. Il peut y avoir un droit dans un temps donné qui avait une validité, voire une légitimité. C'est-à-dire, effectivement, il y a une transaction commerciale dans l'acquisition par le British Museum de ces frises. Mais on peut, et c'est en cela que l'histoire est intéressante, et c'est aussi l'histoire de la provenance, c'est-à-dire aller jusqu'à le contexte colonial pour la Grèce dans lequel ça a été acquis. Et c'est vendu par un sultan qui est en position, si vous voulez, de pouvoir et de domination vis-à-vis de la Grèce. et qui s'autorise finalement à vendre ces frises-là au départ. Donc, tout ce travail qui est fait maintenant dans les musées, si on essaye de reconstituer précisément l'histoire des propriétés, doit nous éclairer dans la manière d'interpréter la légitimité du lieu où se trouve la pièce de collection aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Mélina Mercouri, avec sa voix enchanteresse, dit ça d'une manière un petit peu provocante, et heureusement qu'on a des gens comme ça qui nous réveillent un petit peu. Elle parle de vol, et elle dit bien aussi, c'est tout à fait intéressant, à quel point la population britannique, alors elle parle d'un galop, j'imagine c'est un sondage, qui a été fait pour avoir le soutien de la population, et c'est comme si justement la corporation, parfois des conservateurs, pouvait s'accaparer un droit, en quelque sorte, qui n'irait pas forcément en accord avec celui de la volonté
de Lafond, le British Museum, Tervuren en Belgique, le plus grand musée en la matière à Berlin, le Louvre, aujourd'hui, Quai Branly, musée Jacques Chirac, ce sont des lieux universels où la visibilité est assurée pour les objets. Tout un chacun de n'importe quel continent, s'il a les moyens, et si Air France fonctionne, peut venir. Et puis,
j'aime beaucoup votre nuance.
La sécurité juridique est assurée.
Alors, je comprends bien cette sincérité dans la prétention à l'universel, si vous voulez, de ces collections. Et je reconnais que la question de la curiosité n'est pas toujours mue dans un projet de domination. Je reconnais aussi que toute ma formation d'historienne de l'art a été motivée par la fréquentation des musées depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire vraiment par un goût qui m'est venu par la fréquentation de ces musées. Et j'ai un respect immense pour les musées. Alors cette question de l'universalité peut-être doit-elle désormais un peu bouger, c'est-à-dire la comprendre. Je pense aussi par exemple à Michel Léris qui disait bien, c'est pas parce qu'on aime ces objets et qu'on veut les acquérir à tout prix, même par le vol, pour les remporter en France en fin de compte et les exposer et espérer qu'à travers ces objets on fera aimer les populations, que c'est légitime. C'est-à-dire que peut-être faut-il repenser l'universalité, non plus en termes d'une possession dans un endroit donné et souvent le monde occidental qui réunirait tous les chefs-d'œuvre du monde, mais bien dans une forme de copropriété où on pourrait justement aller vers quelque chose qui serait davantage partagé et non pas pourquoi après tout à Paris y aurait-il un musée qui comprendrait tous les autres.
Mais enfin il était sincère, Jacques Chirac qu'on va entendre un instant, ainsi que son conseiller Jacques Kerschach, quand ils ont composé la collection des chefs-d'œuvre à destination du monde, venus de tous les pays sources au Quai Branly. Et puis ensuite, en écho, le point de vue d'un conservateur de Dakar, Monsieur Ndiaye.
Tel est aussi l'enjeu de ce musée, promouvoir contre l'affrontement des identités et les logiques de l'enfermement et du ghetto, l'exigence du décloisonnement, de l'ouverture et de la compréhension mutuelle. Rassembler toutes celles et tous ceux qui, à travers le monde, s'emploient à faire progresser le dialogue des cultures et des civilisations.
Le concept de musée universel qui dénationalise les objets, à mon avis, est un piège de la part des grandes institutions muséales. Mais je pense que c'est une ruse de plus en plus, en fait. Nous sommes tous d'accord que l'objet, dès l'instant qui représente une nation, dès l'instant qui représente un lieu, une population locale, a une portée universelle. C'est un objet qui représente le monde. Il n'en reste pas moins que l'objet en tant que tel vient de quelque part, est le génie d'un peuple, d'une culture, et par conséquent fait sa fierté. D'une manière ou d'une autre, cette culture, ce pays a le droit d'en être le dépositaire, l'héritier. L'argument souvent développé par de grands musées, parfois par de grands collectionneurs, par des personnalités scientifiques, a été l'incapacité des musées locaux à assurer la sauvegarde, la protection de ce patrimoine. Malheureusement, il y a quelques exemples qui sont allés dans ce sens. Il n'en reste pas moins que les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a plusieurs musées qui naissent sur le continent africain. Cet argument ne tient plus.
Alors, est-ce qu'il y a des musées d'Afrique qui présentent la sécurité juridique suffisante? Alors, je vais être polémique, mais la Belgique rend des objets à Kinshasa et les objets sont volés.
Oui, alors on a eu une information la semaine dernière, ou peut-être même au début de la semaine, hier, je ne sais plus, au musée d'Aubray, où on a volé aussi...
L'écrin du cœur en or, dame de Bretagne.
Vous imaginez alors le poids symbolique de cet objet. Donc ce sont des choses malheureusement contre lesquelles tout musée doit se parer. Il y a deux choses. Depuis le début de la colonisation, il y a des musées qui sont créés en Afrique. Donc on a plusieurs exemples dès le milieu du XVIIIe siècle, d'ailleurs à Saint-Louis du Sénégal. Et il y a aussi, peut-être, faut-il mettre davantage en valeur, le fait que, par exemple, si on prend des objets que l'on peut trouver au musée du Quai Branly, ce sont des objets qui, avant d'être collectés ou spoliés ou conquis dans le cadre de guerre coloniale par les Français, ont été transmis de génération en génération aux Béninois eux-mêmes ou aux populations locales. Donc il y a des modalités, je dirais, de transmission du patrimoine qui peuvent être propres à l'Afrique. Et l'Afrique est un continent qui est aussi ouvert au monde, ne serait-ce que par sa population qui est sur tous les continents du monde, enfin la dimension diasporique, qui fait qu'il y a des contacts aussi qui peuvent s'établir entre des modes, je dirais, de conservation qui sont peut-être plus propres à l'Occident, qui peuvent être importés et qui le sont déjà. Quand on pense au musée de Bamako, par exemple, enfin c'est un musée qui a su aussi, dans le cadre de partenariats avec d'autres grandes institutions culturelles du monde, en Allemagne, aux États-Unis, en France, etc., de mettre en place des modalités de conservation qui sont à l'image de celles que l'on peut trouver dans les grands musées européens. Donc je pense qu'il y a deux choses. D'une part, peut-être constater que la transmission de nombreux objets précédant la colonisation est une preuve, finalement, de la capacité quand même des populations africaines à transmettre. Et d'autre part, les contacts multipliés entre l'Occident et l'Afrique au sens large, qui permet de s'assurer qu'il y aura conservation désormais.
Faute d'une législation facilement applicable, il faut raisonner au cas par cas. Je vous propose qu'on commence par le Bénin. Au début des années 1890, la cour du roi Dahomey, le dernier grand souverain du Dahomey, on appelait ainsi le Bénin à l'époque, est pillée par les Français qui ont déchu de son trône le roi Béhanzin. Et d'ailleurs, ce sont des appropriations individuelles par des militaires qui vont enrichir des trésors de la cour Dahomey les musées français plus tardivement. Musique royale, musique de Coltrane.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La restitution du patrimoine africain aujourd'hui avec Anne Lafont est d'abord la restitution du patrimoine béninois. Le musée Jacques Chirac du Quai Branly, dont on parle beaucoup depuis le début de cette émission, voit que le dixième des objets d'Afrique qu'il conserve, ce sont des objets du Bénin. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette cour royale ?
Alors, ce sont environ, je crois, en termes de proportions, je l'ignorais, mais c'est aux alentours de 4 000, 4 500 objets, effectivement, qui viennent du Bénin, mais qui n'ont pas tout tout s'était acquis dans le cadre colonial. Mais mettons qu'une grande partie de ceci date de la, effectivement, de la mise à sac du palais royal, du roi Béhanzin, par le général Dodds, donc, qui était un général envoyé par la France, et qui se sont, lui et les militaires, se sont accaparés donc une grande partie des biens qui étaient exposés. Et on retrouve aujourd'hui notamment trois statues divines des rois du Dahomey. On trouve le trône royal, dont les sculptures, enfin, ouvragées en bois. Et puis, un certain nombre de sceptres royaux, de textiles et autres objets qui étaient donc exposés dans ce magnifique palais.
Il faut quand même dire que la France a offert le gîte et le couvert, il est vrai, à Alger pendant une dizaine d'années,
au roi exilé. Bien, oui. Qui après est d'ailleurs parti aux Antilles, avant de revenir mourir.
Le Bénin, en 2016-2017, est le seul pays d'Afrique à avoir formulé une demande officielle, il ne s'agit pas Absolument. De gesticulation, un texte officiel de restitution, qui était porté, au temps où Jean-Marc Ayrault était encore ministre des Affaires étrangères, par Aurélien Agbemoni, son homologue, qui parle ici en 2017. On est donc toujours sous François Hollande.
J'ai indiqué que le Bénin n'était pas dans la revendication, le Bénin n'était pas dans la demande d'une repentance, mais le Bénin est dans une démarche très simple de coopération, coopération qui doit conduire un pays ami, qu'est la France, à rendre à un autre pays ami, le Bénin, des choses qui lui appartiennent. Ce que j'essaie de dire, c'est que la France a et dispose d'un arsenal juridique qui lui permet effectivement de décider soit de faire des déclassifications, soit de mettre en dépôt, ou même alors de voter des lois qui sortent totalement du patrimoine français, ces biens qui sont à nous. Je pense que les avenues sont nombreuses, la coopération muséale en est aussi une, et il appartient, je pense, à nos deux pays de trouver des voies très pacifiques, de se mettre d'accord pour que ces choses, ces trésors royaux reviennent à l'endroit d'où on n'aurait jamais dû les retirer, la terre béninoise.
Le ministre béninois des Affaires étrangères, à quoi son collègue, c'était une interview de TV5 Monde, Jean-Marc Ayrault répond, arsenal juridique, ben la loi elle est simple en France, inaliénabilité des biens des musées,
oui.
Constitués en collection, on ne peut pas céder.
Alors, c'est une logique, je veux dire, moi j'estime que la parole politique doit inspirer la technique et non pas l'inverse. Donc on peut se réfugier derrière cette inaliénabilité pour ne rien toucher, pour ne rien bouger, ou on peut, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron finalement dans son discours de l'automne, dire voilà, il y a une volonté de changer nos rapports, nos relations avec un certain nombre de pays qui exigent de voir revenir finalement les objets qui sont restés dans les musées français et qui ont été acquis dans un contexte colonial de brutalité, d'asymétrie, et on va trouver les moyens techniques, en l'occurrence les lois, l'arsenal juridique qui nous permettra de le faire de manière négociée.
Avant la loi, plusieurs avenues sont ouvertes, dit le ministre béninois. Il peut y avoir des arrangements, des accords. Vous savez, le genre, là je vais en Asie, le genre manuscrit coréen. Alors, François Mitterrand, en 1993, il apporte un des manuscrits qui ont été confisqués à la suite d'une opération de représailles sur la cour de Corée en 1866. Et il y a un accord avec Alstom à signer. Je vous le donne en prêt, ce manuscrit. Mm-hmm. Et puis, plus tard, 2009, Nicolas Sarkozy. G20 à Séoul. Allez, je vous accorde en prêt le reste. Mm-hmm. Défaites les bagages, ça ce sont des aménagements possibles.
C'est des aménagements possibles. Et
sont... vous les trouvez justifiés? Ils sont très impurs aussi, eux.
Tout est impur, hein. Moi je ne suis pas une...
Mais Madame Savoie, la directrice de la mission nommée par Emmanuel Macron, a dit si c'est pour échanger un TGV contre un objet, moi j'en suis pas.
Non, mais c'est pas la question. Je dois dire que effectivement, ça n'est pas un troc qui est comme ça aménagé autour d'objets d'échange. En revanche, je trouve l'imagination de modalités de copropriété, indépendamment, je dirais, de troc qui seraient ceux purement économiques, est quelque chose à envisager. Et si on reste, après tout, enfin, je crois aussi que cette mission devra bien mettre à l'épreuve de l'histoire, en quelque sorte, à la politique ou à la réelle politique, on peut dire, d'aujourd'hui. Donc, on va voir comment ça se passe.
Il y a des lois singulières, particulières, très courtes, avec peu d'articles. Il y en a deux qu'on peut citer. La Vénus Hottentote, restituée à la suite d'une loi parlementaire à l'Afrique du Sud, et la tête maori du musée de Rouen, restituée aussi à la suite d'une loi. Parce que le conseil municipal de Rouen avait dit, bah oui, on vous la rend, votre tête, mais l'État, dans un premier temps, avait expliqué, c'est inaliénable. Et il a fallu désaffilier la tête maori.
Alors, il y a des commissions de déclassement, effectivement, qui peuvent entrer en ligne de compte, mais qui sont extrêmement lentes, qui sont des modalités, je dirais, internes à la profession des conservateurs. Mais il y a surtout, dans le cas, je dirais, des têtes maori ou de la Vénus Hottentote, enfin, une spécificité qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce sont des biens humains, quand même. Et que, donc, la question de la non-patrimonialité aussi du corps humain doit être une règle de principe, même si, par le passé, on a cru que c'était faisable. C'est-à-dire quand en 1815, effectivement, on garde le cerveau, l'anus et les organes génitaux de la Vénus Hottentote d'Olfermol, ça n'est pas parce qu'on l'a fait dans des conditions légales qu'elles valent encore dans la société d'aujourd'hui. Et je crois que là, si on ne peut pas mettre une équivalence parfaite entre le cas de la Vénus Hottentote et puis effectivement les statues divines de la collection patrimoniale béninoise, il faut quand même s'interroger sur la portée symbolique que peuvent avoir certains objets dans le cadre de la constitution d'une histoire.
Une des différences, c'est que les restes humains ne sont pas destinés, une fois restitués, à être visibles.
Ça dépend de la population, mais l'enjeu, en général, c'est effectivement de donner un rituel funéraire à quelqu'un qui n'en a pas eu la possibilité.
Alors, nouvelle législation, s'écrit cet avocat belge, maître Debris, au micro de RFI. Je veux bien quelques lois particulières, mais alors une loi générale qui irait encore plus loin que celle concernant les biens juifs spoliés, c'est la boîte de Pandore.
Si on écoute le discours du président Macron, si on considère, et ce n'est pas mon point de vue, que la colonisation est un crime contre l'humanité, eh bien dès lors, cette notion de crime pourrait fonder une loi d'exception, un peu comme celle de restitution des lois maoris. Alors, dans ce cas-là, ce sont tous les pays, c'est presque le monde qui est concerné. J'ai raté sans doute le cours d'histoire de l'Empire colonial français, donc j'ai vérifié rapidement sur Wikipédia, faites-le, et vous verrez que c'est le monde. Si on parle du continent africain, en Afrique du Nord, vous avez le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. En Afrique subsaharienne, vous avez la République centrafricaine, vous m'arrêtez quand je vous ennuie. Le Tchad, la République du Congo, le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo. Mais je peux vous dire qu'évidemment, vous avez la Polynésie française, qui dans ce cas-là, vous avez le Moyen-Orient, il y a ce qui est le Grand Liban, vous avez toute l'Océanie, évidemment. Vous avez l'Amérique du Nord, qu'on a oublié, souvent ce sont des possessions qui remontent à très loin, mais qui ont existé. Vous avez toutes les Caraïbes aussi. Donc si on considère que la base, c'est le crime contre l'humanité, eh bien c'est le monde qui est concerné et on peut penser à des lois d'exception.
Anne Lafont.
Oui, alors je trouve ça assez amusant d'entendre ce monsieur découvrir que c'est le monde que ça concerne. Effectivement, l'Empire, la colonie, c'est le monde que cela concerne. Donc effectivement, il faudra en passer par là. Moi, je crois qu'il faut être très humble dans les modalités pratiques, c'est-à-dire vraiment s'attacher à une volonté de répondre d'abord aux demandes qui sont formulées, à celles qui ne le sont pas finalement. Il n'y a pas lieu de les prendre en compte immédiatement. Et puis de vouloir finalement, à travers ça, se confronter à ce qu'a été à ce qu'est l'institution du musée, peut-être en inventer une autre qui ne serait pas forcément celle de déposséder l'Europe de tous ses biens, et puis aussi de se confronter à l'histoire. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de faire l'histoire. On a tant reproché à l'Afrique qui serait sans histoire, prétendument, et bien précisément non. Et cette histoire passe aussi par le rapport qu'on peut nouer avec ces objets. Et puis peut-être une dernière chose, si vous me laissez le temps de le dire, je crois qu'il faut prendre, et pour le coup Emmanuel Macron s'en est aperçu, là-dessus, la mesure, prendre en compte la mesure des enjeux qui se logent derrière cette question des restitutions. Et non pas d'en faire une grande généralité, mais bon, j'évoquerai juste une scène dans le dernier film de Marvel, Black Panther, où on voit précisément le héros du mal confronté à un masque africain dans un musée, et c'est un moment déclencheur de ce film-là. Donc il y a aussi un rapport, si vous voulez, qui se noue dans la culture populaire, entre ce que sont ces musées, ce qui livre aussi d'une histoire noire sur un plan beaucoup plus mondial, comme le précisait votre interlocuteur précédent.
Enfin, si on revient sur le plan européen, il faut poser des bornes, parce que les Belges, ils vont pouvoir réclamer à la France les objets confisqués à Liège et à Tournai pendant la Révolution. Merci à vous, Anne Lafont.
C'est moi qui vous remercie.
L'émission a été préparée par Franck Olivard et Céline Loriot, à la réalisation Audrey Ribouille, Florent Beauvalet à la technique. Et chez vous, Mathieu Bidard?
Oui Jean, dans un instant dans La Tête au Carré, on va parler du collectif, d'entrelacement dans le monde vivant pour comprendre un peu les interactions chez les organismes.
Attendez, c'est ça qui s'appelle les réseaux de l'évolution?
Oui.
C'était votre titre officiel.
Tous entrelacés.
Donc on a le titre, on a le
sous-titre
et le mode d'emploi. Il est 14h, vous écoutez France Inter.